Dans le désir d'un service partagé, nous aimerions lire au début de cette réunion quelques passages de la première épître à Timothée. Première épître à Timothée, au premier chapitre, au verset 8e, nous savons que la loi est bonne si quelqu'un en use légitimement, sachant ceci que la loi n'est pas pour le juste, mais pour les iniques et les insubordonnés, pour les impies et les pécheurs, pour les gens sans piété et les profanes, pour les batteurs de père et les batteurs de mère, pour les homicides, pour les fornicateurs, pour ceux qui abusent d'eux-mêmes avec des hommes, pour les voleurs d'hommes, les menteurs, les parjures. Et s'il y a quelque chose autre qui soit opposé à la saine doctrine, suivant l'évangile de la gloire du Dieu bienheureux qui m'a été confié. Et je rends grâce au Christ Jésus, notre Seigneur, qui m'a fortifié de ce qu'il m'a estimé fidèle, m'ayant établi dans le service, moi qui auparavant étais un blasphémateur et un persécuteur et un outrageux, mais miséricorde m'a été faite parce que j'ai agi dans l'ignorance, dans l'incrédulité. Et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et l'amour qui est dans le Christ Jésus. Au chapitre 2e, au premier verset, j'exhorte donc avant toute chose à faire des supplications, des prières, des intercessions, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont haut placés, afin que nous puissions mener une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté, car cela est bon et agréable devant notre Dieu Sauveur qui veut que tous les hommes soient sauvés et viennent à la connaissance de la vérité. Dieu est un, et le médiateur entre Dieu et les hommes est un, l'homme Christ Jésus, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous, témoignage qui devait être rendu en son propre temps, pour lequel moi j'ai été établi prédicateur et apôtre. Je dis la vérité, je ne mens pas, docteur des nations dans la foi et dans la vérité. Au chapitre 3e, le verset 16. Et sans contredit, le mystère de la piété est grand, Dieu a été manifesté en chair, a été justifié en esprit, a été vu des anges, a été prêché parmi les nations, a été cru au monde, a été élevé dans la gloire. Au chapitre 4e, verset 8e, exerce-toi toi-même à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, mais la piété est utile à toute chose, ayant la promesse de la vie présente et de la vie qui est à venir. Cette parole est certaine et digne de toute acceptation, car si nous travaillons et sommes dans l'opprobre, c'est parce que nous espérons dans le Dieu vivant, qui est le conservateur de tous les hommes, spécialement des fidèles, ordonne ces choses et enseigne-les. Au chapitre 5e, le verset 21, « Je t'adjure devant Dieu et le Christ Jésus et les anges élus que tu gardes ces choses sans préférence, ne faisant rien avec partialité. » Et au chapitre 6e, verset 13, je t'ordonne devant Dieu qui appelle toutes choses à l'existence et devant le Christ Jésus qui a fait la belle confession devant Ponce Pilate que tu gardes ce commandement sans tâche, irrépréhensible, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, laquelle le bienheureux est seul souverain, le roi de ceux qui règnent et le Seigneur de ceux qui dominent, montrera au temps propre. Lui qui seul possède l'immortalité, qui habite la lumière inaccessible, lequel aucun des hommes n'a vu ni ne peut voir, auquel soit honneur et force éternelle. Amen. Jusque-là. Dans les épîtres pastorales, c'est-à-dire les épîtres adressées à Tite, à Timothée et à Tite, il n'est pas question de Dieu le Père, hormis la salutation, grâce, miséricorde, paix de la part de Dieu le Père et du Christ Jésus notre Seigneur. Quand nous arrivons dans le corps de l'Épître, il est alors parlé de Dieu. S'il est question de la première épître à Timothée, il s'agit de l'ordre, de la maison de Dieu qui doit exister dans la maison de Dieu, comme il est dit au chapitre 3e, dans l'assemblée, la maison de Dieu qui est l'assemblée du Dieu vivant, la colonne et le soutien de la vérité. Il est donc question non pas du Père, mais comme il est question d'ordre, en rapport avec la maison de Dieu, il est parlé de Dieu dans cette première épître à Timothée, comme du reste dans la deuxième et dans l'épître à Tite. Et nous avons lu un verset dans chaque chapitre où précisément il nous est parlé de Dieu sous un caractère ou sous un autre. Nous ne disons pas que ce sont les seuls passages où il est parlé de Dieu. Mais nous choisissons, nous sommes amenés à lire un passage important concernant Dieu lui-même. Au premier chapitre, tout d'abord, à propos de notre lecture, l'apôtre dit que la loi est bonne, mais elle n'est pas pour le juste, elle est pour les iniques et toutes sortes de formes de mal sont mentionnés. Et l'apôtre termine en disant « Et s'il y a quelque autre chose qui soit opposée à la saine doctrine suivant l'évangile de la gloire du Dieu bienheureux qui m'a été confié. » L'évangile de la gloire du Dieu bienheureux avait été confié à l'apôtre Paul. Comme il a été dit plusieurs fois en ces deux journées, l'évangile n'est pas seulement l'évangile du grand salut de Dieu, mais c'est l'ensemble des révélations qui ont été confiées à l'apôtre Paul. Qu'il s'agisse du sujet de l'Assemblée, qu'il s'agisse du sujet de l'espérance chrétienne, tout cela fait partie de l'Évangile confié à l'apôtre Paul. Et voilà pourquoi l'apôtre peut parler de notre Évangile ou de mon Évangile, parce que cet évangile-là lui a été confié à lui et à personne d'autre. C'est l'évangile de la gloire du Dieu bienheureux. Chers amis, quel titre nous avons là pour définir l'évangile. Et il y aurait peut-être parmi nous moins de vulgarité à l'égard de l'Évangile si nous avions conscience d'une telle expression. Évangéliser, c'est une chose nécessaire, c'est une chose excellente. Un homme comme l'apôtre Paul pouvait dire « Malheur à moi si je n'évangélise pas ». Mais alors, chers amis, il importe, tandis que nous avons ce désir d'évangéliser, d'avoir toujours conscience de la hauteur, de la grandeur d'un tel évangile. Il est l'évangile de la gloire. Il n'est pas seulement l'évangile du Dieu bienheureux, il est l'évangile de la gloire qui déploie devant nous la gloire du Dieu bienheureux. Avons-nous tous reçu personnellement cet évangile? Les appels et les vérités de cet évangile de la gloire du Dieu bienheureux. Les jours, les mois, les années passent. L'année passée, nous avions déjà une réunion d'évangélisation du même genre. Et voici qu'une année après, Dieu nous accorde à nouveau une rencontre pour que la voix de l'Évangile se fasse entendre. L'Évangile de la gloire du Dieu bienheureux. Dieu est cela, le Dieu bienheureux. Il est le seul à posséder en lui-même un tel titre. Il a son propre bonheur. Il est le Dieu bienheureux. Et le Seigneur Jésus est venu de la part de Dieu pour nous parler en particulier de ce bonheur, du grand bonheur qu'il y a d'appartenir à un tel Dieu, d'appartenir à un tel Sauveur qui est mort pour nos péchés et qui est ressuscité pour notre justification. C'étaient là les sentiments qui remplissaient le cœur de l'apôtre Paul lorsqu'il s'est trouvé devant cette cour somptueuse qui n'avait que l'éclat extérieur, qui n'avait rien dans leur cœur, quand il se trouve là en présence du roi Hérode Agrippa, qui se trouve en présence de sa sœur Bérénice, il est là en présence de toute une cour, il est là tout seul, en prisonnier, mais le prisonnier du Christ Jésus, il est là porteur de liens. Et il peut dire à Hérode Agrippa lui dit, tu me persuaderas bientôt d'être chrétien. Ah, voilà ce que l'apôtre Paul eut désiré pour Hérode Agrippa. Voilà ce que je souhaite pour toi, Agrippa, et pour vous tous qui êtes ici. Voilà ce que je souhaite, que vous soyez absolument comme moi, hormis ces liens, que vous soyez comme moi. Et quand l'apôtre Paul exprime de telles paroles, il est là, jouissant d'une indicible félicité, la félicité qu'il y a d'appartenir à Jésus, mort pour mes péchés, ressuscité pour ma justification. Quel témoignage, quelle puissance dans ce témoignage rendu par l'apôtre Paul en présence de toute cette cour qui n'avait, nous le répétons, que l'éclat de l'extérieur. On était venu, dit l'Écriture, en grande pompe, et dans le cœur, on n'avait rien. Et l'humble et modeste prisonnier du Christ Jésus avait tout dans son cœur, ce grand bonheur d'appartenir au Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus est venu sur la terre, il est venu de la part de Dieu pour nous communiquer précisément ce bonheur. Lisons le premier évangile. Qu'est-il dit? Quelles sont les premières vérités enseignées par le Seigneur à ses disciples sur la montagne? Ce sont ce qu'on appelle les 9 béatitudes du royaume des cieux. Bienheureux, bienheureux, bienheureux. 9 fois le Seigneur dit bienheureux. Voilà comment le Seigneur a commencé son enseignement, par parler du bonheur. Et si on avait reçu le Seigneur, on aurait connu ce bonheur dans sa plénitude. Le Seigneur a accompli son ministère, et quand il en sort, quand il arrive à la fin de son ministère, au chapitre 23e de ce même premier évangile, que dit-il alors? Malheur, malheur à vous, scribes et pharisiens, malheur à vous, hypocrites. 7 fois, le Seigneur leur dit malheur, malheur. Ils n'ont rien voulu du bonheur annoncé par le Seigneur au début de son ministère. À la fin de son ministère, c'est alors le malheur qui est invoqué par le Seigneur sur eux, sur ses conducteurs responsables du peuple. Malheur à vous, malheur à vous. Que le Seigneur nous donne de venir à lui tous ce soir. Que tous ce soir nous puissions connaître Jésus pour notre sauveur personnel et connaître en lui-même ce bonheur que seul Dieu possède en lui-même, l'Évangile et l'Évangile de la gloire du Dieu bienheureux. Au chapitre 2e, les croyants sont exhortés à prier. Tout d'abord, à faire des supplications, des prières, des intercessions, des actions de grâce pour tous les hommes. Des supplications, c'est la prière instante. Des prières, c'est la demande d'une façon générale. Des intercessions, c'est le fait de penser devant Dieu à quelqu'un, à un frère, à une sœur. Nous intercédons pour tel frère, pour telle sœur, selon la situation dans laquelle ils peuvent se trouver. Et des actions de grâce pour tous les hommes, même pour ceux qui ne le font pas ou qui ne veulent pas le faire. Des actions de grâce pour tous les hommes. Voilà, chers amis, les différents genres de prières que nous avons à exprimer. Et d'une façon particulière, pour ceux qui sont établis en autorité, pour que nous puissions mener une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Nous l'avons réalisé durant ces 2 jours, le Seigneur nous l'a accordé. Il nous a accordé cette vie paisible, tranquille, en toute piété, honnêteté. Nous avons eu la possibilité de nous réunir paisiblement, tranquillement. Et pour mener une vie paisible et tranquille en toute piété. Voilà le côté de Dieu. Voilà notre attitude vis-à-vis de Dieu, cultivant d'heureuses relations avec lui-même. Et puis, le côté des hommes, de ceux au milieu desquels nous avons à vivre et travailler en toute honnêteté. Car cela est bon et agréable devant notre Dieu Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et viennent à la connaissance de la vérité. Voilà la mention de Dieu dans ce chapitre. Deuxième, il est le Dieu Sauveur. Et sa volonté est que tous les hommes soient sauvés et viennent à la connaissance de la vérité. Qu'ils soient sauvés, qu'ils connaissent ce grand salut de Dieu. Et alors, dans la jouissance d'un tel salut, alors apprendre à connaître la vérité et faire des progrès dans la connaissance de ce qu'est la vérité. Ici, il s'agit essentiellement de la vérité chrétienne. Car Dieu est un, et le médiateur entre Dieu et les hommes est un, l'homme Christ Jésus, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Témoignage qui devait être rendu en son propre temps. Voilà, chers amis, le sujet suprême de l'Évangile. Dieu est un, il n'y en a pas plusieurs, et puis un médiateur entre Dieu et les hommes. Ce médiateur, l'homme Christ Jésus est un, il n'y en a pas plusieurs. Et c'est par l'homme Christ Jésus que nous venons à la connaissance de ce Dieu qui est le Dieu de salut, le Dieu qui veut que tous les hommes soient sauvés. Venons à un tel Dieu. C'est son désir. Plus que cela, c'est son vouloir, c'est sa volonté. Il veut que tous les hommes, sans exception, soient sauvés. Venons à un tel Dieu sauveur. Comme il est dit au psaume 68e, il nous est dit au verset 19e, tout d'abord une action de grâce. Béni soit le Seigneur qui de jour en jour nous comble de ses dons, le Dieu qui nous sauve. Notre Dieu est un Dieu de salut, et c'est à l'Éternel, le Seigneur, de faire sortir de la mort. Nous l'avons entendu par l'Épître aux Colossiens. De nature, nous sommes morts dans nos fautes et dans nos péchés, dans l'incirconcision de notre chair, mais Dieu a le pouvoir de faire sortir de la mort de tels êtres pour leur donner la vie, pour les vivifier, pardonner, libérer du joug de la loi. Voilà ce qu'est un chrétien selon Colossiens 2. Au chapitre 3e, nous avons le mystère de la piété qui est grand sans contredit et qui a trait à l'incarnation de notre Seigneur, Dieu. C'est le passage central de l'Épître, c'est le sommet de tout l'enseignement de la première Épître à Timothée. C'est comme si nous montions et nous arrivons au sommet, le mystère de la piété qui sans contredit est grand, et puis nous redescendons pour arriver à la fin de l'Épître. Nous sommes à un sommet, et cela n'échappe à personne. Dieu manifesté en chair. Dieu a été vu sous la forme d'un homme. La parole devint chair et habita au milieu de nous. Puis, dans son humaine existence, il a été justifié en esprit, c'est-à-dire que toutes les actions, toutes les paroles, toutes les pensées du Seigneur ne provenaient que de l'action de l'Esprit-Saint agissant en lui. Il a été justifié en esprit. Puis il a été vu des anges, qu'il s'agisse de sa naissance, qu'il s'agisse de sa mort, qu'il s'agisse de sa résurrection, le Seigneur a été vu des anges, et maintenant, dans la gloire du ciel, il est l'objet de leur contemplation. Il a été prêché parmi les nations, objet de la prédication de l'Évangile, Christ et Christ seulement. Il a été cru au monde, c'est-à-dire qu'il a été donné au monde comme objet de foi. Il nous est donné ce soir encore comme objet de foi. Le Seigneur nous est présenté pour que nous croyions en lui. Il a été cru au monde, donné au monde pour être cru comme objet de foi. Et ce soir, d'une façon particulière, ici même, il nous est donné pour que nous croyions en lui. Dieu manifesté en chair vue sur cette terre tel que l'homme Christ Jésus. Et enfin, il a été élevé dans la gloire. Et comme on l'a dit cet après-midi, comme la parole de Dieu nous l'a dit, en lui habite, non pas à habiter, mais habite la plénitude de la déité corporellement, de telle sorte que l'on regarde vers la crèche, que l'on regarde le chemin terrestre de notre Seigneur, que l'on regarde vers la croix, que l'on regarde maintenant dans le ciel, c'est un homme que nous voyons. Il a été élevé dans la gloire. Un homme a été élevé dans la gloire, celui qui est Dieu manifesté en chair. On a émis quelquefois, on a posé la question, du reste fort pertinemment, en rapport avec le mystère de la piété, pourquoi n'est-il pas parlé des souffrances du Seigneur et de la mort du Seigneur dans ce passage? La résurrection peut être supposée dans le fait qu'il a été élevé dans la gloire, mais en fait, il n'est pas positivement parlé des souffrances et de la mort, et même pas de la résurrection de notre Seigneur. Quelle réponse pourrait-on donner à cette question-là? On s'attendrait, surtout que le mystère de la piété est formé de 6 composantes, on s'attendrait à une 7e composante, à ce que ce mystère de la piété soit constitué par cette vérité. Et voilà la souffrance et la mort du Seigneur que l'on s'attendrait à lire dans ce mystère de la piété ne sont pas mentionnés. Pourquoi? Eh bien, chers amis, la pensée qui a été exprimée il y a fort longtemps doit retenir notre attention. Il est question de Dieu qui a été manifesté en chair, justifié en esprit, élevé dans la gloire. On ne peut pas dire que Dieu a souffert. On ne peut pas dire que Dieu est mort. Cela n'est pas une pensée scripturaire du tout. Dieu n'a pas souffert ce que ont été les souffrances de notre Seigneur, encore moins Dieu n'est pas mort. On ne peut pas dire que Dieu soit mort. Voilà pourquoi la pensée de la souffrance et de la mort de notre Seigneur ne se trouve pas exprimée dans le mystère de la piété qui, par ailleurs, sans contredit, est grand. Au chapitre quatrième, Dieu est le conservateur de tous les hommes. Il est donc tout d'abord dit que nous avons à nous exercer à la piété. Elle est utile à toute chose parce qu'elle a la promesse de la vie présente. Nous avons les promesses de Dieu pour notre vie actuelle, chers frères et sœurs. Dieu énonce de nombreuses promesses. Le livre des psaumes, par exemple, est là, et bien d'autres passages de la parole. Et puis en même temps, ayant la promesse de la vie à venir, qui est à venir, nous avons des promesses en vue de la vie à venir, en vue de l'éternité, à commencer par la promesse du retour du Seigneur. Eh bien, cette parole, que la piété a la promesse de la vie présente et de la vie qui est à venir, elle est certaine et digne de toute acceptation. Expression, cette parole est certaine, que nous trouvons à cette reprise dans la parole depuis 1 Timothée 1, où il est dit que c'est une parole certaine et digne de toute acceptation, que le Christ Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont moi je suis le premier. L'apôtre Paul avait conscience de son état misérable. Voilà pourquoi 2 fois dans ces versets du premier chapitre, il dit « Mais miséricorde m'a été faite. Mais miséricorde m'a été faite. » Il était pleinement conscient, l'apôtre Paul, de la grandeur de la miséricorde de Dieu à son égard. C'est une parole certaine et nous la trouvons au cours des épîtres pastorales jusqu'à la fin du livre de l'Apocalypse. C'est la parole de la grâce, chers amis, qui est une parole certaine. C'est la parole de la grâce. De la parole de la loi, est-ce qu'il est dit que c'est une parole certaine? Non. Dans l'Épître aux Hébreux, il est dit que c'est une parole ferme, dans le sens d'une parole exigeante, d'une parole intransigeante. Hébreux 2 nous dit ceci. Hébreux 2 nous dit cela, que, verset 2, si la parole prononcée par les anges a été ferme, et si toute transgression et désobéissance a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut? Si la parole prononcée par les anges, c'est la loi, a été ferme, exigeant la mort du transgresseur. La parole de la loi est une parole ferme. Il n'est pas dit de la parole de la loi qu'elle est une parole certaine. La parole de la grâce est une parole certaine. Cette parole est certaine et jusque dans l'éternité où il nous est parlé de ce qui sera à la part du croyant, ces paroles sont certaines et véritables à la fin de l'Apocalypse. Cette parole est certaine, alors, si nous travaillons et sommes dans l'opprobre, c'est parce que nous espérons dans le Dieu vivant. Le verbe espérer a changé de sens, de signification. Aujourd'hui, quand on parle d'espérer, il y a toujours une idée de doute. On dira, par exemple, demain j'irai ici, mais j'espère y aller, je n'en suis pas sûr. Ce n'est pas du tout le sens de l'espérance ou du verbe espérer dans la parole de Dieu. L'espérance n'est rien moins que l'assurance, l'absolue assurance. Si nous travaillons et sommes dans l'opprobre, c'est que nous avons toute assurance dans le Dieu vivant, qui est le conservateur de tous les hommes, spécialement des fidèles. Et l'apôtre Paul l'a réalisé, lui qui a été frôlé par la mort si souvent, combien il a réalisé cette puissance de Dieu qui l'a conservé, qui l'a maintenu. Timothée devait ordonner ces choses et les enseigner. Ce verbe ordonner que l'on trouve sept fois dans la première épître à Timothée, pas le verbe seulement, le substantif ordonnance et le verbe ordonner, traduisant toujours le même mot, se trouve sept fois de telle sorte que l'on a pu dire que la première épître à Timothée était telle qu'une ordonnance, l'ordonnance de la grâce, dont la fin, dont le but est l'amour, comme il est dit au premier chapitre. Au chapitre cinquième, nous avons deux grands sujets, le sujet des veuves, et en particulier de celles qui sont vraiment veuves, c'est-à-dire qui n'ont plus d'appui humain, elles n'ont plus de soutien humain, elles sont vraiment veuves et leur confiance en Dieu est entière. Il fallait en prendre soin avec beaucoup de diligence. Et l'autre sujet du chapitre est le sujet des anciens dans l'Assemblée, des anciens qui sont exhortés à présider dûment et qu'ils soient estimés dignes d'un double honneur, spécialement ceux qui travaillent dans la parole et dans l'enseignement. Timothée devait prendre garde à de tels enseignements, soit concernant les veuves, soit concernant les anciens dans l'Assemblée, et l'apôtre fait appel à Dieu lui-même. « Je t'adjure devant Dieu et le Christ Jésus et les anges élus que tu gardes ces choses » sans préférence, ne faisant rien avec partialité. C'est tellement facile d'agir avec préférence, d'agir avec partialité, selon nos sympathies, ou peut-être, ce qui est triste à dire, selon nos antipathies. Timothée devait agir sans préférence, il devait agir sans partialité. Et pour cela, l'apôtre Paul se sert de la voie d'adjuration. La voie d'adjuration était en Israël la plus haute forme de sommation. Lévitique 5 nous le dit clairement. Et si quelqu'un entendait la voie d'adjuration, donc il était sommé de dénoncer tel ou tel coupable, s'il ne le faisait pas, il était considéré lui-même comme étant le coupable. La voie d'adjuration est la voie qui se faisait entendre en Israël la plus solennelle qui soit. Il est remarquable de voir que quand le Seigneur Jésus a entendu la voix du souverain sacrificateur lors de sa comparution devant le Sanhédrin, il est dit que le Seigneur garda le silence, il n'a pas répondu. Mais dès que la parole d'adjuration a été prononcée, alors le Seigneur parle. Il parle parce que c'était la voix d'adjuration. Dans ce chapitre 26 de l'Évangile selon Matthieu, Nous voyons dans notre Seigneur adorable, nous le voyons réaliser deux ordonnances de la loi d'une façon parfaite, comme il a réalisé toute autre chose parfaitement. Quand il entend la voix d'adjuration, Lévitique 5, aussitôt le Seigneur répond, il se soumet à la loi. Quant au sacrificateur, au souverain sacrificateur, il déchire ses vêtements, et Lévitique 21 l'interdisait formellement, lui qui aurait dû connaître la loi et les interdictions de la loi, le voilà qui déchire ses vêtements. Alors que Lévitique 21 dit positivement, le souverain sacrificateur ne déchirera pas ses vêtements. Un passage où nous voyons le Seigneur obéissant parfaitement à la loi, un passage dans la même scène où nous voyons le souverain sacrificateur méprisant froidement les ordonnances de la loi. Quel contraste, chers amis. Alors, Timothée devait donc prendre garde dans son attitude à l'égard des anciens. Et enfin, au chapitre 6e, nous avons Dieu qui appelle toutes choses à l'existence. Verset 13, « Je t'ordonne devant Dieu qui appelle toutes choses à l'existence, que tu gardes ce commandement, cette ordonnance, tout ce que je t'ai dit au cours de cet épître, que tu gardes ce commandement sans tâche, irrépréhensible, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. Je t'ordonne devant Dieu qui appelle toutes choses à l'existence. » Il appelle toutes choses à l'existence. Qu'il s'agisse de la nature physique, de rien, Dieu a pu tout faire. À partir de rien, à partir du néant, il a créé toutes choses. Et s'il s'agit de la vie nouvelle, également, il est celui qui appelle à l'existence, à une vie nouvelle, le pécheur qui veut bien venir à lui et reconnaissant ce qu'il est devant Dieu, un pécheur mort dans ses fautes et dans ses péchés. Eh bien, Timothée recevait donc cet ordre, « Je t'ordonne devant Dieu, qui appelle toutes choses à l'existence, que tu gardes ce commandement sans tâche, irrépréhensible jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. » Voilà quelques mentions de Dieu lui-même dans cette première épître. Le Dieu bienheureux, le Dieu qui veut que tous les hommes soient sauvés, Dieu manifesté en chair, le mystère de la piété qui sans contredit est grand, Dieu le conservateur de tous les hommes, spécialement des fidèles, le Dieu juste qui exige l'ordre dans l'assemblée, et Paul peut faire appel à un tel Dieu, je t'adjure, devant Dieu, et devant le Christ Jésus, et devant les anges élus, que tu fasses toutes choses sans préférence, sans partialité. Et enfin, le Dieu qui appelle toutes choses à l'existence. Dieu, ce soir encore, nous appelle, chers amis, celui qui est le Dieu créateur et le Dieu sauveur, qui ce soir encore appelle. Est-ce possible, chers amis, que le temps de la grâce demeure ainsi? Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Puissions-nous répondre à l'appel de celui qui appelle toutes choses à l'existence. C'est le vœu ardent de notre cœur que chacun ici, les jeunes en particulier, puisse parler de Dieu comme étant leur Dieu sauveur et du Seigneur Jésus comme étant leur sauveur personnel. Et chers jeunes gens ici en haut, que vous puissiez parler non pas seulement du Fils de Dieu qui a aimé les hommes, pas seulement du Fils de Dieu qui nous a aimés, mais le Fils de Dieu m'a aimé et s'est livré lui-même pour moi. Que Dieu vous en fasse la grâce à tous, chers jeunes gens, et que nous-mêmes, chers frères et sœurs, nous puissions marcher davantage, personnellement, mais collectivement aussi, dans le chemin du Seigneur. C'est cela le grand bonheur de suivre notre Maître pas à pas et de répondre ainsi à son amour qui est un amour immuable, un amour qui ne change pas. Que nous puissions rendre un bon témoignage collectivement du moment que la première épître à Timothée nous parle de l'ordre qui convient à la maison de Dieu, que nous puissions y penser chacun, chers amis, selon l'assemblée locale à laquelle nous appartenons, afin que Dieu soit glorifié parmi les siens.